Bienvenue sur Ubuntu Podcast. L'histoire, la sociologie, les arts, l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être sont les thèmes abordés dans nos épisodes. Je suis Moreau, votre hôte qui vous accompagnera dans ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bonjour tout le monde. Nous voici pour un nouvel épisode du podcast Ubuntu que vous appréciez tous. Mais je remercie une nouvelle fois ceux qui me soutiennent, ceux qui partagent et ceux qui m'encouragent par message, par téléphone, mes proches, mes amis et les auditeurs qui m'encouragent au quotidien de poursuivre cette expérience Ubuntu Podcast qui permet d'échanger sur des sujets qui nous touchent en général. Donc aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée que je dirais spécialiste sur le sujet sur lequel on va traiter. Tu me dis non de loin, mais tu connais quand même. Voilà. Donc, j'ai été observé, j'ai enquêté. Donc, j'ai nommé Mujinga. Bonjour, Mujinga.
Bonjour, Moreau.
Très bien. Est-ce que je prononce bien ton prénom ?
Mujinga.
Mujinga.
C'est bien.
Excellent, excellent. Je suppose qu'il y a des origines précises dans ce prénom, c'est ça ?
Oui, oui. Je suis d'origine congolaise de Kinshasa. Et d'accord. Mon père était de la région du province de Katanga.
Mm-hmm. Oui, d'où le Mouj. C'est pas voilà, Mujinga ?
Mujinga.
Ok, très bien, très bien. Très bien. Voilà, un beau prénom, faut
merci.
Le dire, faut le dire. Très bien. Donc, Mujinga, avec qui on va échanger sur le sujet d'une maladie, qui se transmet de génération en génération, qui perdure depuis un certain temps, qui se nomme la drépanocytose, donc liée au sang, des globules rouges. Oui. Donc on ne va pas rentrer dans la technique, on va laisser justement Mujinga nous présenter cette maladie. Déjà, avec l'origine de cette maladie, dis-nous d'où ça provient, s'il te plaît.
Alors, cette maladie, de ce que j'en sais, a été découverte il y a environ une centaine d'années par un médecin, James Eric, aux États-Unis. Je suis un étudiant qui était de l'île de Grenade et qui souffrait de toux et des fièvres. Et c'est comme ça qu'on a mis en fait le doigt sur la drépanocytose, donc il y a environ une centaine d'années. Quant à l'hérédité, en fait, enfin dire le caractère héréditaire de cette maladie, elle a été mise en lumière vers 1949 par un autre médecin, donc James Neal. Donc ça fait environ, on va dire, une centaine d'années pour la découverte, et à peu près 70 ans qu'on a découvert le caractère héréditaire de la maladie.
D'accord, donc il y a eu des études qui ont été faites, des recherches aussi, pour pouvoir un peu expliquer ça, donc ça date de 100 ans. Donc on peut dire que cette maladie existait bien avant les 100 ans, là, quand même, avant de la répertorier.
Probablement, probablement. Et en tout cas, voilà, le point de départ, c'est autour de 1904 qu'on a découvert donc, cette maladie qu'on appelle la drépanocytose.
Très bien. Justement, cette maladie, comment se définit-elle d'un point de vue scientifique ? Parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est lié au sang, au globule rouge. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus, donner plus d'informations, s'il te plaît ?
Sur la maladie en elle-même, donc, je dirais qu'il y a trois éléments à retenir. C'est une maladie du sang, c'est une maladie génétique, c'est-à-dire qu'on vient au monde avec la maladie. C'est une maladie héréditaire qu'on appelle autosomique récessive, c'est-à-dire qu'elle s'est transmise par les deux parents. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que les deux parents...
Autosomique récessive.
Voilà, donc c'est deux parents qui sont porteurs du gène, qui chacun transmettent leur gène S, et donc qui fait que l'enfant est porteur donc, de la maladie, donc la drépanocytose.
D'accord, donc là on a des mots scientifiques, autosomique.
Autosomique récessive, ce n'est pas vraiment ça qu'il faut retenir, c'est juste le terme, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le caractère héréditaire donc, des deux parents.
Après, j'invite les gens à faire des recherches.
Oui,
voilà,
bien oui.
Pour pouvoir définir au moins les mots qui peuvent être utilisés, qui ne sont pas compris par tous autour de nous, autour de moi, mais c'est important.
Oui,
c'est
oui, important. Et je ne suis pas une spécialiste, comme je te dis, je sais. Mais bon, voilà, je connais un petit rayon.
Là, justement, le facteur héréditaire. Donc, par exemple, c'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, il y a plusieurs types, on va dire, types de cas. Voilà, on va dire, voilà, il y a le porteur sain, il y a le porteur tout court, ou il y a le négatif, on va dire ça comme ça. Donc du coup, comment ça se détermine dans le choix héréditaire ? C'est-à-dire que, est-ce que un parent porteur sain, enfin deux parents porteurs sains, les enfants peuvent être obligatoirement porteurs sains, ou il y a un risque, qui peuvent être négatifs, ou ils peuvent être aussi porteurs tout court. Donc du coup, il y a plusieurs schémas qui s'en mêlent, parce qu'il y a plusieurs types de cas que l'on connaît tous. Donc comment un peu ça se détermine ?
Alors, je pense que pour y arriver, il faut déjà partir aux origines de la maladie. Mmh. Comme je l'ai dit, c'est une maladie du sang qui a, on va dire, il faut retenir trois éléments. D'abord, c'est une maladie du sang, donc on sait où se trouve l'anomalie, c'est au niveau du sang. Mmh. C'est une maladie génétique, donc on vient au monde avec, et c'est une maladie héréditaire qui s'est transmise par les deux parents.
Ouais.
Donc on va partir par le sang pour essayer en fait de comprendre où se situe la maladie pour arriver à la transmission. Mmh. Donc, cette maladie, c'est une maladie aujourd'hui, on va dire, qui concerne tout le monde, même si pendant très longtemps, on a considéré que c'était une maladie des Noirs. Mm-hmm. Mais il faut dire que 80% des personnes atteintes par cette maladie sont on se retrouve sur le continent africain, mm-hmm. Chez les Afro-descendants, en fait. On la trouve aussi au Brésil, en Inde, voilà. Mais 80% des malades, quand même, restent des Afro-descendants. Mm-hmm. Alors, dès l'explication que j'ai eue, en tout cas, sur les origines de cette maladie, c'était en fait une réponse au paludisme. Comme tu le sais certainement, le paludisme est une maladie qui sévit dans les zones tropicales hein, en Afrique, qui se transmet par un moustique.
Tout à fait.
Et donc, comme toutes les maladies que nous contractons, nous répondons en fait. Notre organisme se défend lorsque il est attaqué par une maladie. On explique donc à un certain moment pour que, notre organisme, en se défendant, il y a eu une mutation du gène d'hémoglobine A qui s'est transformée en S. Mm-hmm. Alors, j'ai dit d'abord, c'est une maladie du sang. Le sang, bon, vous savez tous que nous avons du sang, c'est ce liquide hein, vital mm-hmm. qui coule dans nos veines. Et dans le sang, il y a différentes composants. Vous avez du plasma, des plaquettes, des globules rouges et des globules blancs. Et chaque composant a son rôle. Les globules rouges, leur rôle, c'est donc de transporter l'oxygène dans le sang. Et le problème se trouve au niveau donc, des globules mm-hmm. rouges. Dans ces globules rouges, il y a une protéine qui s'appelle l'hémoglobine. Mmh. Pour vraiment faire court, on ne va pas utiliser non plus des termes scientifiques hein, que je ne maîtrise pas tout non plus, mmh. mais pour faire court, cette hémoglobine, lorsqu'elle est normale, elle est AA.
D'accord.
Et nous avons tous cette hémoglobine, puisque nous avons du sang. Voilà, et cette hémoglobine, c'est elle qui donne cette couleur rouge à notre sang. Donc, elle est AA. Et quand vous faites un enfant, vous lui donnez forcément une allèle de cette hémoglobine. Donc, mm-hmm. vous êtes AA, vous allez forcément donner un A à votre enfant. Vous en donnez un.
D'accord.
La maman donne un, le A, le papa donne aussi le A, quand elle est normale. Donc, c'est cette hémoglobine qui a opéré une mutation pour se défendre donc, contre le paludisme et passer donc de AA à AS.
D'accord.
Jusque-là, c'était, on va dire, un avantage, entre guillemets, hein, on dit que c'était un avantage pour se défendre contre le paludisme. Mais le problème s'est posé lorsque deux personnes qui ont eu donc cette mutation mm-hmm. et ont fait un enfant et ont donné chacun leur S. Mm-hmm. Et donc, on a découvert donc, que c'était une maladie parce qu'une personne qui a une hémoglobine qui est AA, c'est-à-dire que ces globules rouges vont faire leur vie tout à fait normalement. Vous ne sentez rien. Les globules rouges font leur vie. Ils assument leur rôle donc, de transport de l'oxygène dans notre organisme et vous ne le sentez pas. Et quand les globules rouges sont normaux, ils ont une forme ronde et ils circulent librement, tranquillement. Ils ont une certaine durée de vie. Il n'y a pas de souci. Donc, lorsque la personne est trépanocytaire, donc SS, ces globules rouges qui sont fabriqués par la moelle osseuse sont fabriqués normalement, mais à un moment donné de leur vie, ils vont se déformer, ils vont prendre une forme de croissant, de fossile. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la drépanocytose, parce que fossile, c'est un terme grec. Donc, drépanon pour fossile et cytose pour la cellule.
D'accord.
Donc, c'est comme ça que la maladie, en fait, est née, a été découverte il y a une centaine d'années. Tu as posé plusieurs questions, donc je suis déjà revenue aux origines. Donc voilà, je souhaitais déjà expliquer où se situe l'anomalie en fait au niveau de la maladie et ensuite aborder le point génétique et héréditaire.
Aucun souci, mais moi j'apprécie, parce que j'apprends. Ça fait penser un peu à Il était une fois la vie avec les hémoglobines.
Oui, tout à fait. On a tous vu ça, exactement.
Le son, l'oxygène, tout ça.
Ça
fait revenir à des cours d'SVT niveau collège.
Oui, oui, oui. On a tous vu. Donc,
excellent. Merci. Merci en tout cas. Merci pour ce grand point. important pour bien comprendre un peu les origines de cette maladie et aussi le facteur héréditaire, comme tu expliques. Donc, comment ça s'est développé, lié au paludisme, les parents AA, donc qui peuvent. Excuse-moi. Les parents AA, il suffit qui peut transformer en S et les enfants. Ou les parents AA. Excuse-moi, j'ai un trou.
Donc, quand l'hémoglobine elle est normale, voilà. Elle est AA pour la plupart d'entre nous. Hein. Pas pour moi, puisque je suis porteuse. Quand l'hémoglobine est normale, elle est AA. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un peu comme la détermination du sexe d'un enfant. C'est génétique. Mm-hmm. Donc, nous, les femmes, c'est XX. Les hommes, c'est XY. Donc, quand nous faisons un enfant, nous ne pouvons donner que des X. C'est tout ce que nous avons. Et les hommes donnent X ou Y. Donc, si moi, je donne X, le papa X, l'enfant est une fille.
Okay.
Si je donne un X et le papa donne les Y, l'enfant est un garçon. Donc, c'est un peu le même principe avec l'hémoglobine, parce qu'on va forcément la donner. C'est génétique. Donc,
d'accord.
Nous avons tous un patrimoine. Génétique. Donc, au niveau de l'hémoglobine, donc, nous donnons, si nous n'avons que de AA, nous ne donnons que de A. Donc, le problème dans la drépanocytose va se poser lorsque les parents vont être porteurs de ce gène S, qui a déjà muté, qui aujourd'hui se transmet de génération en génération, comme tu as dit. Hein. Mm-hmm. Donc, comme moi, je suis porteuse de ce gène. Hein. Donc, je suis AS, je ne suis que porteuse. Je n'ai pas développé la maladie, je suis porteuse de ce gène que j'ai transmis à mon fils, parce que je suis ici parce que je suis maman d'un enfant qui souffre de la drépanocytose.
Ok. Non, mais j'ai travaillé avec le schéma. J'ai mon petit schéma que j'ai imprimé, un petit tableau là, que je ne peux pas montrer aux auditeurs.
Oui.
Où on explique un peu les différents types de transmission avec les enfants. Donc,
J'ai failli l'apporter, mais je me suis dit, on ne voit pas de toute façon.
Au pire, je communiquerai à la sortie de l'épisode, pour que les gens puissent un peu voir ce qu'il en est. Très bien. Ben, on arrive aux symptômes.
Non, on ne va pas arriver aux symptômes d'abord. On va arriver à la génétique et à l'hérédité. Si tu veux bien.
Ça, tu vois, quand je disais que les gens aiment bien piloter mon podcast. Donc voilà, ça, c'est la preuve. Donc vas-y, fais-toi plaisir.
Non, parce que je pense que c'est important de comprendre en fait comment cette maladie survient avant d'aller sur les complications de la maladie. De la transmission, on l'a un peu évoqué, mais je veux encore y revenir.
Ok.
Parce que c'est quelque chose qui je pense aujourd'hui qui ne reste pas, qui n'est pas assez clair. Et que souvent, en tout cas, on voit en Afrique, on a tendance à dire que tout est la faute de la maman lorsqu'un enfant a un problème, quel qu'il soit, parce que la maman porte l'enfant. On va dire, c'est la faute de la maman. Et il y a des pères qui sont dans le déni, qui vont dire, non, c'est pas chez nous, c'est forcément la maman. Non, la drépanocytose, c'est une maladie qui se transmet vraiment par les deux parents. Parce que comme je l'ai dit, on a tous une hémoglobine. Quand elle est normale, elle est AA. Donc ce qui va se passer, c'est lorsque deux personnes porteurs du gène, donc AS, vont faire un enfant. Donc, tu l'as évoqué tout à l'heure. Il y a quatre probabilités. Je donne mon A, le papa donne son A, l'enfant est AA, donc indemne de la maladie. Je donne le A, le papa donne le S, l'enfant est AS et porteur de ce gène.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est ça. Ensuite, le papa donne son S, et je donne le A. L'enfant est porteur du gène et AS. Le problème, c'est lorsque je donne le S, le papa donne le S, là, l'enfant est donc drépanocytaire. Donc voilà, c'est le cas donc, pour mon fils, puisque son papa et moi, nous sommes porteurs de ce gène, nous sommes AS. Donc, lui ont donné le gène S, chacun, vraiment chacun, l'enfant est SS. Et donc, souffre la drépanocytose. Voilà. Il y a aussi d'autres formes que je n'aborde pas parce que je ne les maîtrise pas, moi. C'est parce que mon fils souffre du syndrome majeur, ce qui est SS. C'est ce que je connais le plus. Mais il y a aussi des personnes SC. Il y a aussi même des formes D et tout ça.
Okay.
Il y a aussi la bêta-thalassémie, mais moi, je parle plutôt de la drépanocytose, la forme plus grave, donc homozygote SS. Donc voilà, vraiment, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ça se transmet par les deux parents, et on viendra donc certainement après pour parler du dépistage, d'où l'importance du dépistage lorsqu'on souhaite fonder une famille. Voilà.
Merci. Là, tu as répondu vraiment parfaitement. Non, je pense qu'on va te rappeler pour le podcast. C'est excellent. Très bien. Merci. Ben, justement, peut arriver aux symptômes ?
Bien sûr.
Je demande, hein, comme ça, il n'y a pas de problème.
Là, c'est donc, toi voilà. Le chef.
Donc, on parle de cette maladie, on a compris les origines, on a compris comment elle s'est transmise.
Oui.
Comment elle se transmet, pardon. Et justement, les symptômes. Donc, du coup, parce que moi, je te parle, enfin, si j'en parle, c'est parce que je connais aussi dans mon entourage des personnes SS, avec la forme, on va dire, grave. Donc, qui passent des semaines à l'hôpital.
Tout à fait.
Des grandes complications. Et du coup, voilà, quels sont les symptômes de cette maladie ? Est-ce que c'est des choses, on va dire, gérables ou pas gérables, ou qui peuvent entraîner d'autres complications plus graves dans le quotidien ?
D'accord. Je pense que si on parle à une personne qui souffre à la drépanocytose, la première chose dont elle va vous parler, c'est des douleurs. C'est vraiment une maladie de la douleur. Pourquoi ces douleurs ? C'est comme j'ai expliqué, c'est que lorsque l'hémoglobine déforme, donc les globules rouges, qui prennent une forme de croissant, de faucille, ça circule mal en fait dans le sang, ça fait des bouchons. Ça fait des bouchons et du coup, ça cause des douleurs plus ou moins intenses qui peuvent soit être gérées à domicile, soit vraiment dans beaucoup de cas quand même en milieu hospitalier parce qu'il faut des traitements plus forts comme la morphine pour soulager la douleur.
D'accord.
Donc voilà, la drépanocytose est vraiment marquée par ces crises qu'on dit vaso-occlusives parce qu'il y a donc une occlusion au niveau des vaisseaux. Voilà, c'est d'abord ces douleurs qui peuvent être chroniques hein, parce que la drépanocytose est quand même une maladie chronique aussi. Ces douleurs peuvent être chroniques, plus ou moins intenses. Et conduire à des hospitalisations dans un premier temps pour soulager déjà la douleur et puis d'autres complications aussi derrière. Mais c'est dans un premier temps pour soulager ces douleurs qui se situent au niveau des articulations. Alors, pour des douleurs, vraiment, il n'y a pas une zone définie. Les douleurs peuvent aller de la tête aux pieds. Ils peuvent toucher tous les organes. Il y a des douleurs sur lesquelles on va faire un peu plus attention au niveau de la poitrine, par exemple, pour éviter ce qu'on va appeler un syndrome thoracique aigu. Au niveau de la tête, parce qu'il faut savoir que ces personnes sont sujettes aussi aux AVC, même des enfants à un âge très jeune. Moi, j'en connais un à 4-5 ans qui faisait des AVC. Pour les garçons, par exemple, ils peuvent souffrir de ce qu'on appelle le priapisme, c'est-à-dire une érection prolongée. Qui, voilà, s'il n'est pas pris en charge à temps, peut être extrêmement grave et qui peut aussi amener à des hospitalisations pour drainer le sang. Donc, d'abord, c'est ça, c'est la douleur. C'est la douleur et ensuite, évidemment, des complications sur différents organes, plus ou moins vitaux. Parce que déjà, l'oxygène est mal transporté, donc il est mal distribué dans différents organes, donc il peut avoir une nécrose. Parce que l'oxygène, c'est la vie pour nous tous. Donc le rôle des globules rouges, c'est de transporter l'oxygène dans nos organes et permettre de vivre. Donc il peut avoir des nécroses, par exemple, on va dire de la tête fémorale, qui à un moment donné peut demander une opération pour mettre une prothèse de la hanche. Beaucoup de personnes drépanocytaires, ont des prothèses de la hanche. Il y a des de complications au niveau de tous les autres organes, quand on fait des AVC, c'est pas quelque chose d'anodin, au niveau du cœur. Voilà, ce sont des complications sur différents organes. On peut aussi souffrir des ulcères des jambes, dont un jeune qu'on a aidé au Congo, qui en souffrait. Voilà, et c'est vraiment des complications au niveau des organes. Et ce qui me fait aussi rappeler que ça reste une maladie mortelle quand même. Elle est très grave. Aujourd'hui, 30 à 50% d'enfants dans des zones où il n'y a pas de prise en charge meurent faute de prise en charge. Aujourd'hui, moi je vis en France. J'ai la chance de vivre dans un pays où il y a des soins, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Mon fils est très bien pris en charge dans un hôpital des références qui est vraiment à la pointe au niveau de la drépanocytose, où il y a quand même une bonne prise en charge. Mais ce sont des malades à qui on ne donne pas non plus une espérance de vie très très longue. Mais grâce à la médecine aujourd'hui, on peut espérer, on va dire, au-delà de 60 ans. Mais ça reste de moyenne, vraiment. Chacun sa pathologie, ce ne sont que des moyennes.
D'accord. On est bien d'accord quand on est AS, il n'y a aucun symptôme qui peut se déclencher ou il faut vraiment être SS et que pourra développer ces symptômes-là?
Alors, quand on est SS, on souffre donc d'un syndrome majeur, on est dit drépanocytaire. Quand on est AS, on est porteur, mais il y a on ne développe pas forcément des symptômes parce qu'on a quand même un taux d'hémoglobine qui reste correct. Il est moins élevé qu'une personne AA qui tourne autour de 14. Une personne AS, ça peut être autour de 10-12. Alors les drépanocytaires, c'est souvent entre 7-9, parfois même entre 6-9. Si tu es AA, tu as un taux autour de 14 et que tu tombes à 7, c'est pas possible, tu vas être par terre. Alors que les drépanocytes vivent avec ce taux-là au quotidien. Alors les personnes AS, il arrive que certaines en souffrent et qu'ils soient suivies même comme des personnes SS, certainement parce qu'il y a un taux de S qui est très élevé par rapport au taux de A. Donc il y a des malades, il y a des personnes qui sont AS. Qui en souffrent quand même et qui sont suivis. Moi, je suis porteuse, je n'en souffre pas. En tout cas, je peux avoir des coups de fatigue, de l'anémie, mais je ne développe pas la maladie comme une personne SS.
Donc, il y a aussi la fatigue aussi.
Oui, de l'anémie, bien sûr. Il y a beaucoup de... que les gens ne comprennent pas toujours.
Qui est assez récurrent. Pareil avec une connaissance aussi qui aussi SS, elle parle souvent de ces problèmes de fatigue récurrents. Donc en fait quand on n'est pas concerné, on peut pas comprendre, on a du mal à comprendre, voilà. Et quand tu la vois, enfin, quand on les voit souvent se retrouver à l'hôpital, etc., jusqu'à faire des dialyses carrément pour pouvoir entre guillemets recharger le sang, pour espérer que ça calme les douleurs. Et des fois, ça ne marche pas toujours. Mais bon, donc, du coup, c'est assez dur quand même. C'est assez dur à voir.
Bah, je vais revenir sur un terme qui était dit, ce n'est pas de la dialyse. C'est des transfusions.
Voilà. Elle m'a dit dialyse.
Si elle fait de la dialyse, c'est au niveau des reins. Elle a peut-être du problème au niveau des reins. Les reins aussi peuvent être touchés par la maladie, mais aussi par les traitements qu'ils prennent, par exemple l'ibuprofène qui a une prise trop prolongée peut avoir un impact sur les reins. Mais la dialyse, c'est vraiment au niveau des reins, lorsqu'on a des problèmes des reins. Mais sinon, pour les drépanocytaires, on va dire, on parle plutôt de transfusion sanguine.
Très bien, mais merci pour ces réponses. Donc on va revenir un peu sur la question de la maladie qui touche, on va dire, 80% du peuple noir. Comment cela s'explique? Est-ce qu'il y a une raison qu'on soit plus amené à être impacté par cette maladie suite, je sais pas, à notre génétique ou quelque chose qui est vraiment prouvé? Parce que, comme tu as dit, ça se retrouve en Inde, dans la péninsule arabique aussi, jusqu'en Grèce d'ailleurs. Il y a des cas de drépanocytaires en Grèce, alors qu'ils ne sont pas forcément noirs d'origine. Donc du coup, comment ça s'explique que 80% du peuple noir, enfin du monde entier, du peuple noir, est un peu concerné par cette maladie?
Comme je l'expliquais tout à l'heure, pour moi, c'est lié au paludisme, en fait, qui sévit dans des zones tropicales. Donc, c'est pour cela que c'est une population qui est grandement touchée par la drépanocytose. Aujourd'hui, on parle de drépanocytose, mais il y a d'autres maladies qui concernent des populations spécifiques par la zone géographique où elles vivent, en fait. Et nous, par la zone géographique, dans les zones tropicales, nous sommes plus touchés par la drépanocytose due par cette mutation, en fait, du gène AA en S.
D'accord. Non, mais... Ok. Non,
Et ça se répand aussi peut-être parce qu'à cause de la prise en charge, des dépistages, probablement. Ouais. Voilà, donc...
Très bien. Ben merci pour ta réponse. Je pense que ça m'aide quand même un peu plus de recherche. Je pense que je peux creuser un peu plus. Parce que moi, ça me trouve un peu bizarre, quoi.
Moi, j'avoue que... Alors, en tout cas, c'était un questionnement personnel. On nous a quand même colonisés pendant longtemps. Les gens aussi ont vécu en Afrique. Donc, voilà pourquoi ça ne s'est pas aussi... S'il y a eu cette mutation, pourquoi ça ne s'est pas fait de façon un peu plus générale. C'est une question que j'ai aussi, dont je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, moi, je pense que ça s'explique, déjà comme l'histoire nous le dit, par le paludisme, mais parce que par manque de prise en charge de dépistage, par des générations en générations, la maladie se multiplie, en fait. Donc, elle n'est pas canalisée. Donc, forcément, elle se répand un peu plus vite. Elle se développe, en fait, parce qu'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de prise en charge. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'enfants en Afrique où on découvre, à l'âge de 2, 5, 6 ans, ou même plus, qu'ils sont drépanocytaires.
Ok, très bien. Mais je vais quand même faire des recherches, je le dis quand même.
Il n'y a pas de souci.
Justement, on arrive aux solutions qui sont apportées actuellement pour cette maladie. Donc... quand on est SS, je vois ça souvent. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut apporter à ces personnes qui souffrent de drépanocytose?
D'accord. Comme j'ai dit, moi, je vis en France où il y a déjà une bonne prise en charge qui commence déjà par le dépistage à la naissance.
Okay.
Alors, la prévention est la première déjà solution, on va dire, hein, dans cette maladie. En France, depuis 1989, je pense, dans les DROMCOM et depuis les années 2000 en métropole, mm-hmm. on effectue un dépistage de la drépanocytose à la naissance. Déjà, pour toutes les naissances, il y a un dépistage qu'on appelle donc le test de Guthrie. On le fait sur 4 maladies génétiques en principe. Et lorsque vous êtes originaire d'un pays à risque, mm-hmm. on ajoute donc la drépanocytose. Donc, il y a déjà un dépistage qui est fait à la naissance.
D'accord.
De ce fait, lorsque l'enfant est donc drépanocytaire, on va le prendre en charge tout de suite. On va commencer par des traitements donc préventifs pour en fait, prévenir les complications de la maladie. Donc, ça va être déjà mis sous antibiotique en prophylaxie, c'est-à-dire de façon prolongée pour éviter en fait, des complications si on attrape, par exemple, une bactérie qui peut être légère pour n'importe qui, mais grave pour une personne qui souffre de la drépanocytose. On va donner des traitements comme l'acide folique. Voilà. Il va y avoir cette prise en charge, aussi des conseils en termes de nutrition, d'alimentation. On va aussi avoir de la vaccination pour répondre au virus. Hein. Okay. Donc, tout ce qui est mis en place va déjà permettre de limiter en fait, les complications de la maladie. Avec ça, il va y avoir aussi des contrôles réguliers, déjà un suivi au niveau de l'hôpital, mm-hmm. avec des contrôles réguliers tous les ans. Pour surveiller les organes vitaux ou le bassin, comme j'ai dit, par rapport à cette nécrose. Et aussi des échos Doppler ou l'IRM pour voir comment se passe l'activité voilà, au niveau du cerveau pour prévenir en fait, les complications de la maladie. Donc ça, c'est la prise en charge qu'on a aujourd'hui en termes de prévention. Et ensuite, en cas de crise, on a des traitements, on a des antalgiques qu'on peut déjà avoir à la maison. Mm-hmm. Et si ce n'est pas suffisant, on peut être hospitalisé pour soulager en fait, la douleur. Sinon, la drépanocytose en elle-même est une maladie, on va dire, incurable.
Ouais.
Même s'il y a quand même
d'autres...
Voilà, c'est aujourd'hui, il y a une possibilité de guérison, mais dans des cas extrêmes. On va dire, c'est la grève de la moelle osseuse. Hein,
j'avais noté ça dans mes... On en parlait justement.
Bon, on viendra après. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut considérer que c'est une maladie incurable parce qu'on vit avec. On ne va pas proposer cette solution à tout le monde. On vit avec. Donc, c'est une maladie chronique. On va mettre l'accent sur la prévention, principalement, en fait, pour prévenir les complications.
Ok, d'accord. Ben justement, donc la grève de moelle osseuse que j'ai notée dans ma liste, apparemment c'est des cas extrêmes que ça se pratique. Surtout c'est une opération à risque hein, qui est très dangereuse. Donc du coup, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire régulièrement? Enfin, regardons. C'est une solution qui est quand même proposée aux drépanocytaires ou ça fonctionne vraiment pour guérir de cette maladie-là ou c'est vraiment aléatoire parce que justement ça marche pas à 100%. Donc ça dépend beaucoup du corps qui reçoit cette nouvelle crève, cette nouvelle moelle osseuse. Donc il y a pas mal de choses qui rentrent en compte dans ces questions-là.
Comme tu dis, la greffe de la moelle osseuse, ce n'est pas anodin comme c'est opération. Hein. La greffe de la moelle osseuse, c'est une technique qui existe depuis déjà des années et des années dans des cas de cancer, hein, des cancers du sang. Donc ça se fait. La greffe de la moelle osseuse pour une personne qui souffre la drépanocytose va venir vraiment en dernier recours lorsque tout ce que l'on a proposé en termes de thérapie a échoué. Mm-hmm. La thérapie, je vais peut-être sauter une étape tout à l'heure qui est très très importante, c'est la transfusion. La transfusion fait aussi partie des traitements de la drépanocytose. Mm-hmm. Donc la transfusion qui permet d'augmenter les taux d'hémoglobine hein, lorsque on est en baisse, aussi de soigner lorsqu'on est en crise. Cette transfusion est déjà très, très importante pour les malades qui souffrent de la drépanocytose et qui sont amenés à être transfusés régulièrement. Mais pour transfuser une personne, il faut déjà donner. Il faut déjà qu'il y ait des donneurs de sang. Et c'est qu'il y a un problème très, très important dans notre communauté afro-descendante. Il faudrait environ 32 000 poches par an pour soigner des malades drépanocytaires. Or, ils en manquent trois fois moins, en fait.
Surtout que la population augmente de jour en jour.
Et on donne pas, les populations afro-descendantes ne donnent pas assez. Pourquoi c'est très important dans la drépanocytose ? Lorsque vous êtes transfusé une fois dans votre vie parce que vous avez été victime d'un accident ou une opération, quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. On va toujours essayer de trouver la poche qui se rapproche le plus de votre groupe sanguin. Mais lorsque vous êtes amené à être transfusé régulièrement, il faut impérativement qu'il y ait des poches compatibles avec votre groupe sanguin. Parce que si on vous transfuse régulièrement avec des poches qui ne sont pas compatibles, à un moment donné, vous risquez d'être immunisé et de rejeter. Et cette thérapie ne sera plus possible pour vous. Or, pour qu'il y ait cette totale compatibilité, il faut vraiment que ce soit des personnes qui sont issues de la même zone géographique. Parce que selon les régions d'où nous venons, nous avons à peu près, on va dire, les mêmes... Enfin, on a des phénotypes qui se ressemblent. C'est vraiment une question de groupe, de zone géographique. C'est-à-dire, même une personne qui a vécu des générations et des générations à Paris, ouais. Voilà, à Marseillais, est différent. Donc, quand on va chercher une poche, la poche qui sera la plus compatible, c'est une personne qui viendra certainement d'une personne qui est dans la même zone géographique, parce que voilà, des générations en génération, bah, des mariages, des naissances et tout ça, on reste en fait dans les mêmes phénotypes, hein, si je peux dire ça comme ça. Et au niveau aussi des afro-descendants, bon, on est issu de la même zone géographique, donc on a les mêmes caractéristiques, hein, si je veux dire. Donc c'est important pour les malades qui sont drépanocytaires de recevoir des poches de sang qui sont les plus possibles proches de leur groupe. Donc, j'appelle encore une fois à la population, à la communauté afro-descendante, à donner son sang parce qu'il y a un grand manque pour les malades qui souffrent de la drépanocytose. Et nous, donc, au sein de notre association, nous travaillons avec l'établissement français du sang pour encourager vraiment les personnes à donner. C'est très, très important. Donc, je dis, quand on a essayé toutes les thérapies pour venir en aide aux malades qui souffrent d'un syndrome majeur et que ça a échoué, c'est là qu'on va parler de la greffe de la moelle osseuse, mm-hmm. parce que ce n'est pas une opération qui est anodine. Ça peut marcher, il peut avoir un rejet, ça peut même conduire aussi à des décès. Donc, on ne va pas proposer cette solution-là mm-hmm. à chaque fois qu'une personne va être déclarée drépanocytaire. Sachant aussi que chaque malade est différent. Il y a des personnes qui en souffrent un peu moins, mais bon, une grande partie en souffre quand même beaucoup. Ouais. Donc, selon la condition de chacun, on va regarder si on doit arriver à cette solution ultime qui n'est pas du tout, qui n'est pas du tout anodine. En plus, pour être greffé, il faut avoir dans la fratrie, donc un frère ou une sœur qui soit ce qu'on appelle HLA compatible. Parce que c'est la meilleure des compatibilités, en fait, pour que ça réussisse le mieux possible. Il faut le faire jeune, mais il faut cette compatibilité-là dans la fratrie. D'accord. Donc, si déjà il n'y a pas une personne qui est drépanocytaire, n'a pas de frère ou sœur ou n'a pas de frère ou sœur compatible, eh bien, c'est une solution qui est difficilement envisageable. Mais ça évolue, On peut avoir aussi aujourd'hui des donneurs qui sont 50% compatibles, qui peuvent être un papa, une maman ou autre chose. Mais ce n'est pas un domaine que je veux dire, que je maîtrise totalement. Et d'ailleurs, au sein de notre association, nous allons avoir un live spécial greffe de la moelle osseuse au mois de mars pour justement des personnes qui ont fait cette démarche, puissent nous en parler, nous en dire un peu plus. Voilà. C'est une des solutions de guérison. Nous avons aussi suivi un jeune qui s'appelle Mamadou, qui était donc victime des AVC. Ça fait 2-3 ans qu'il a fait sa greffe. Ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, il se porte bien. Mais parce qu'il était, à 4-5 ans, il faisait des AVC. Donc, ça, c'est... Voilà. Et par chance aussi, il avait une sœur qui était HLA compatible. Donc, ça a pu se faire. Donc, voilà. C'est une solution. On dit que c'est généralement une maladie incurable, la drépanocytose. Mais il y a quand même cette solution-là qui n'est pas offerte à tout le monde, et voilà.
Très bien, merci. Merci en tout cas. Donc, on a des informations sur la greffe de moelle osseuse, donc, n'est-ce pas? Très bien. Oui, parce que je ne suis pas seul, il y a des personnes qui m'assistent pour cet épisode.
Oui, donc, nous avons une charmante invitée.
Voilà, donc j'étais le nom aujourd'hui. Voilà. Donc, pour poursuivre notre échange, donc, j'en arrive à comment vivre avec encore cette maladie qui est présent, c'est-à-dire que c'est pas évident parce que ça se développe depuis plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Donc du coup, on est confronté au monde du travail, on est confronté à la vie de famille, on est confronté au quotidien, au quotidien de personnes, on va dire, normales. Et comment on peut, comment on fait pour vivre avec si on doit toujours passer des, on va dire, faire des jours à l'hôpital pour suivre des traitements, à côté tu peux pas travailler. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place auprès de l'assurance maladie pour pouvoir gérer ce type de cas, traiter ce genre de cas, on va dire ça comme ça. Et comment on vit avec aujourd'hui cette maladie?
Alors déjà moi je vais parler en tant que maman. Parce que je ne souffre pas la drépanocytose, c'est mon fils qui en souffre, donc je l'assiste, je l'accompagne dans cette pathologie dont il souffre. En plus, il fait beaucoup de crises. Mm-hmm. Donc, notre quotidien est imprégné par la maladie. Imprégné par la maladie parce qu'il y a des crises qui peuvent être très douloureuses, emmenées à des hospitalisations ou pas assez douloureuse, voilà, pour aller à l'hôpital, mais ouais. On reste à la maison. Donc, ça impacte la vie au quotidien. Ben, lui, dans son cas, il est scolarisé.
Ouais.
Donc, c'est des absences à l'école, déjà en temps de crise, en temps d'hospitalisation. Il y a un suivi médical qui est quand même régulier. Et je faisais le constat, pas plus tard qu'hier, je me disais, mais il ne se passe pas une semaine où je n'ai pas un coup de fil par rapport à sa maladie. Donc, ça va être un coup de vie qui soit va venir de l'hôpital, soit va venir de l'école, ou de moi-même, parce qu'il y a des choses à mettre en place.
Ouais.
Et ce que je dis aussi, on voit mon fils, il est debout, mais on ne sait pas ce que je fais pour qu'il soit debout comme ça. Le quotidien peut être très, très impacté lorsqu'on fait beaucoup de crises, vraiment. Regarde, c'est un suivi permanent. Mm-hmm. Moi, je connais des personnes qui ont repris leur scolarité plusieurs fois. Voilà, c'est vraiment pas évident de manquer l'école. Après, il faut rattraper les cours. Il y a apparemment quelque chose qui est forcément mis en place pour ça. Et c'est aux parents aussi de faire cette démarche, de mettre des choses en place pour qu'il y ait un relais pour poursuivre. C'est vraiment pas évident. On investit dans du soutien scolaire. Donc, c'est pas simple. On est dans un quotidien qui est quand même à part. Même si on essaie de vivre normalement, mm-hmm. on est quand même dans un quotidien qui est imprégné par la maladie. Et là, je parle pour lui qui est scolarisé, mais je connais des personnes qui travaillent et c'est difficile aussi. Enfin, déjà, moi, en tant que parent qui travaille aussi, je suis impactée mm-hmm. par ses absences, par cet accompagnement, être auprès de lui à tout moment, à l'hôpital et tout ça, et l'accompagner, puisqu'il est encore mineur dans ses démarches. Bon, de toute façon, je continuerai encore après, parce que voilà, il reste quand même des grands-enfants. Donc, voilà. Oui, je sais que c'est pas évident non plus. Lorsqu'on en souffre, on fait beaucoup de crises pour aller travailler. Des absences, les employeurs qui ne comprennent pas forcément, il y a des personnes qui n'osent pas en parler de la maladie pour ne pas être discriminées, mais il y a des arrêts maladie. C'est vraiment pas simple lorsqu'on fait beaucoup de crises de travailler, d'aller à l'école. On y va aussi parfois en étant douloureux, mais parce qu'il faut faire l'effort, il faut continuer. Et c'est pas évident, parce que parfois ça fait passer, parfois ça peut amplifier la douleur. Donc, et puis finalement, on se retrouve à l'hôpital. Non, mais c'est un quotidien qui est quand même particulier.
Non, mais j'imagine. Et il me semble que la pratique de sport aussi est déconseillée pour les drépanocytaires.
Oui, c'est déconseillé parce que déjà on souffre d'anémie, on est essoufflé et puis on a aussi d'autres complications derrière. Mais c'est pas tous, il y en a qui en font, oui, c'est pas tous. Moi, j'en ai découvert quelques-uns, une fille qui est très très dans le sport. Et un autre qui fait même de la musculation. Okay. Donc, moi, mon fils, il fait de la musculation, mais à petite dose. C'est vrai que ça ne va pas être très, très conseillé, parce que c'est une activité qui est dense. Après, chacun, selon son état, peut toujours en faire. Mais bon, ce n'est pas des grands sportifs, on va dire, en général.
OK, très bien, très bien. Merci pour ces informations. En tout cas, c'est important de comprendre aussi leur quotidien, comment ils vivent et comment ils ressentent aussi cette maladie-là. Donc, du coup, merci d'avoir partagé l'expérience avec ton fils. Donc, c'est important de savoir ça. Donc, je souhaiterais qu'on arrive à notre seconde partie de notre enregistrement qui concerne Espoir Hope et Ligue. donc, dont tu es membre de l'association, c'est ça, ou peut-être la présidente même, je l'ai dit en ton statut, donc tu pourras nous en dire plus. Donc du coup, quelle est cette association, qu'est-ce que vous proposez justement, qui est centrée autour de la drépanocytose, ou d'autres, peut-être d'autres maladies aussi. Donc je t'écoute, dis-nous tout sur cette association.
D'accord, alors cette association, j'en suis la fondatrice et la présidente, donc Espoir, Hope et Liquide à vaincre la drépanocytose. Les trois mots qui veulent dire exactement la même chose, c'est-à-dire espoir, parce que pour moi, il y a beaucoup d'espoir derrière, malgré toutes ces difficultés. C'est aussi ces trois, dans trois langues différentes, pour dire que ça concerne en fait tout le monde, même si pendant très longtemps, on a dit que c'est une maladie des noirs. Hein. Mm-hmm. Elikia veut dire espoir en lingala. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espoir. Enfin, je crois que les choses vont quand même avancer.
Ouais.
J'ai souhaité fonder cette association il y a environ 5 ans parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de méconnaissance autour de la maladie, voilà, beaucoup d'ignorance. Et même des personnes qui me côtoyaient, j'avais le sentiment qu'elles ne comprenaient pas en fait de quoi il s'agissait. Et j'ai voulu sensibiliser par cette association qui a aujourd'hui, on va dire, 6 objectifs. Informer, inciter au dépistage, exiger les résultats du dépistage même lorsque l'enfant est AS, parce que ça ne se fait pas automatiquement. Encourager le don du sang, financer la recherche et soulager les malades les plus démunis qui se trouvent principalement en Afrique. Donc voilà l'origine de cette association.
Est-ce que vous proposez des ateliers justement auprès des familles pour pouvoir sensibiliser, puisque ça fait partie de votre mission, c'est le cas?
Aujourd'hui, nous ne proposons pas d'ateliers. Sur les 6 axes, quand on parle d'informer, c'est d'abord informer au niveau des réseaux sociaux.
D'accord.
C'est informé par des journées de sensibilisation. Par exemple, le 19 juin, c'est la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. Mm-hmm. C'est organisé donc une journée sur une thématique différente. C'est d'abord ça. On n'est pas au stade où on organise des ateliers, mais nous partageons des informations sur différents ateliers qui existent ou qui sont organisés par d'autres associations. Mmh. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les ateliers, mais vraiment, nous informons beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux.
Est-ce que les gens sont réceptifs au message? Il y a une certaine sensibilisation. Enfin, oui, il y a un retour de votre engagement sur ces questions-là?
Oui, quand même. Oui, ça commence. On voit vraiment que oui, il y a un retour. Les gens sont assez réceptifs. On sent qu'il y a un besoin. En tout cas, il y a un besoin d'information. Nous ne sommes pas la première association. Il en existait avant. Mmh. Mais on sent qu'il y a quand même une réelle demande de comprendre un peu mieux cette maladie et puis aussi nous soutenir dans nos différentes actions. Au-delà de l'information, comme j'ai dit, c'est inciter au dépistage. Parce qu'il nous semble être un point vraiment important dans la prévention de la maladie. Je pense que c'est important de savoir, de connaître son statut. Parce que moi, j'ai souvent le sentiment que les gens... disait, oh là là, c'est dommage pour toi, en fait. C'est un peu ça, quoi. Mais sans se sentir concerné, sans se dire, déjà, je suis noire, je dois me sentir concerné. C'est ça, en fait, le problème. Et moi, c'est ce message que j'ai envie de transmettre. C'est une maladie qu'on rencontre beaucoup chez les afro-descendants. Donc, lorsque on est noir, désolé, mais il faut se dire, si j'ai un projet de fonder une famille, je dois savoir si je suis porteur ou pas de la drépanocytose du gène S de la drépanocytose. C'est important. Et moi, je suis sûre qu'il y en a énormément qui sont porteurs et qui ne le savent pas. Donc ça, c'est un trait important, vraiment quelque chose. On veut que vous fassiez dépister quand vous souhaitez faire un enfant. Et il faut savoir, en tout cas en France, lorsque vous êtes un couple porteur, il y a des choses qui existent. Il y a un conseil génétique qui peut vous donner des informations. Nous, ce qui nous importe, c'est que vous ayez l'information et que vous preniez vos décisions en fonction de l'information dont vous disposez. Nous ne sommes pas dans des discours comme nous avons pu l'entendre, on dit « séparez-vous ». Parce que vous allez faire des enfants malades et tout ça. Nous, ce n'est pas notre discours. C'est disposer de l'information et prendre les décisions en fonction de vous-même, des informations que vous avez et que ça ne vous tombe pas dessus. Vous me dites, ah, je ne savais pas c'était quoi la drépanocytose.
Oui, oui, oui.
Ah, parce qu'il y a aussi des gens qui disent, ah, si j'avais su. Voilà. Non, là, aujourd'hui, nous sommes en 2022, nous œuvrons pour partager l'information, pour vous aider à prendre des bonnes décisions, à vous faire accompagner. Même si vous êtes un couple porteur, que vous souhaitez avoir un enfant, on vous donne l'information, après, à chacun, de prendre ces décisions. L'autre volet, comme je dis, c'est exiger les résultats d'un enfant qui est porteur. Jusqu'en 2010 à peu près, lorsqu'un enfant naissait en France et qui était porteur du gène, les parents n'avaient pas forcément l'information que l'enfant était AS. Et c'est une aberration pour moi, en fait, parce que ce sont des porteurs du gène, qu'ils soient AS, SS ou SC, qui transmettent la maladie. Donc, il est important qu'un enfant qui est né AS et que ses parents aient cette information et qu'il la lui transmette. Si à l'âge adulte l'enfant grandit, enfin a envie de faire des enfants, c'est normal de donner cette information. Ça commence un peu à bouger. A priori, en Île-de-France, tous les enfants qui naissent porteurs ont l'information. Moi, j'ai pas vérifié. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Mais en tout cas, chers parents, si votre enfant est né en 2000 en métropole et que vous n'avez aucun document qui vous dit qu'il est AA ou AS, exigez ces documents. Faites dépister votre enfant pour connaître son statut, pour que demain, s'il souhaite faire un enfant à son tour, qu'il le sache. Ça, c'est vraiment très, très, très important.
Surtout que le dépistage est gratuit, il y a des centres partout.
Exactement, exactement.
Vous avez les résultats en quelques semaines. Et voilà.
Voilà, c'est ça. Il y a deux centres, d'ailleurs, d'information, de dépistage de la drépanocytose. Il y a un centre dans le 18e et un centre dans le 13e arrondissement.
Tout à fait.
Qui est certes très mobilisé aujourd'hui sur la vaccination de Covid, mais voilà, il y a deux centres en Île-de-France, à Paris, où vous pouvez aller faire votre dépistage, est gratuit. À côté de ça, nous avons des médecins, vous pouvez aller voir votre médecin, vous lui demandez de vous prescrire ce qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine, et il vous le prescrit, vous allez en laboratoire, vous faites votre test. Donc, ce n'est vraiment pas les moyens qui manquent. Si vous n'êtes pas en Île-de-France, vous savez, à Toulouse, à Marseille, où que vous soyez, votre médecin peut vous prescrire cet examen et vous le faites pour vous. Et même si vous avez déjà des enfants, vous pouvez faire pour vos enfants et savoir ce qu'il en est. C'est un élément qui est vraiment primordial lorsqu'on souhaite fonder une famille.
Non, mais c'est important. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais fait un test auprès de mes proches il y a quelques années, on va dire ça comme ça, pour savoir, mes amis, pour savoir un peu s'ils savaient leur statut, entre guillemets. Et du coup, beaucoup ne savaient pas. Beaucoup n'étaient pas au courant, alors qu'ils sont tous âgés, hein, d'autres sont pères et futurs pères. Et beaucoup ne savaient pas, n'avaient pas les informations sur ces questions-là, n'avaient pas fait le test. Et pour eux, c'était nouveau, quoi. Du coup, il y a comme une forme de certaine négligence autour de cette maladie. Malgré qu'elle soit connue, on va dire, elle est quand même connue, on a tous un parent. Pas tant que ça.
Déjà, est-ce que toi, tu sais?
Moi, je sais.
Ok. c'est... non, tu n'es pas obligé de donner les résultats, mais le fait que tu saches, c'est important.
Je
ok.
Sais.
Voilà. Non, tout le monde ne sait pas. Moi, je pensais aussi, mais non, non. C'est vraiment, il faut continuer à donner l'information. On voit ça de loin. Hein. Et moi, comme je dis, vraiment, j'en ai assez d'entendre des Oh, Yako, Mawa. Non, je veux plus, non. On est tous concernés. Donc, il faut le faire. Il faut le faire.
Donc, tu confirmes qu'il y a bien une certaine négligence auprès.
Oui, en fait, qu'est-ce que je peux dire? C'est qu'on n'a pas envie, quand les choses vont bien, d'aller chercher la petite bête, en fait. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Hein.
Ouais.
On se dit, bon, je suis bien portant, hein, pourquoi je vais aller chercher si je suis porteuse d'une maladie? C'est peut-être ça aussi. Et du fait, on veut que ce soit loin, qu'on dise c'est l'autre.
Ne pas tirer le mauvais œil, tout ça.
Voilà, c'est l'autre, c'est l'autre et c'est pas moi. Non, la drépanocytose, c'est vraiment pas que l'autre. La drépanocytose, là, nous sommes autour de la table, là. Voilà, nous sommes noirs. Donc, nous devons nous sentir concernés et connaître notre statut. Parce que beaucoup, beaucoup sont porteurs et vraiment s'ignorent, quoi.
Très bien, très bien. Très bien, merci. Merci en tout cas pour ce petit message sociologiquement important pour comprendre un peu ce qui se passe dans nos familles.
Et puis, il y a autre chose qui te touche au sang. Je pense que, voilà, on a aussi cette... on aime mystifier tout ce qui est autour du sang aussi, ouais. Hein, qu'on n'a pas envie. D'où le problème aussi du don du sang.
Voilà. Oui, qui peuvent déjà lier à certaines croyances, il y a voilà. Pas mal de choses autour de ça. Donc, on ne peut pas développer sur cet épisode. Mais en tout cas, je pense que les gens ont compris de quoi on parle. Donc, et après, mais moi, j'entends souvent, enfin, j'ai déjà entendu plusieurs fois, quand la maladie se développe, on dit « oh, c'est la sorcellerie », tout ça, des trucs comme ça. Hein. Vraiment des cas comme ça où c'est vraiment très grave, quoi. C'est alors que vrai. Simplement, on ne se pense pas là-dessus pour dire comprendre d'où ça provient, les origines, comment ça se développe, etc. Et là, quand on a l'information, quand on est formé, entre guillemets, on peut répondre à la prévention et à anticiper la venue d'un enfant pour pouvoir gérer si l'enfant a des formes graves de drépanocytose.
Oui, tout à fait. C'est très facile de parler de sorcellerie, que ce soit pour la drépanocytose ou toute autre maladie qu'on ne s'explique pas. La même chose, on entend. Oui, hier, il était debout, demain, il est tombé. C'est la sorcellerie, c'est le tonton qui a mangé, l'oncle et tout ça. Est-ce que la personne était suivie? Est-ce qu'il y avait une pathologie qui était connue? Non. S'il n'y a pas de suivi, la personne est debout aujourd'hui, demain aussi, elle peut tomber parce qu'elle souffre de quelque chose qu'on ignorait. Non, il faut arrêter de mettre la sorcellerie sur la drépanocytose. Il faut arrêter d'abandonner des enfants. On va les accuser de sorciers pour les mettre à la rue et pas s'en occuper. Non, il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. C'est une maladie, comme des multiples maladies. Donc, voilà, il faut s'y pencher.
Merci. Merci. Donc ça, c'est un petit tacle. Hein. Un petit tacle.
Oui, désolé, mais non, à un moment donné, c'est juste pas acceptable de voir des enfants, des enfants abandonnés. Oui, c'est ça, non, des enfants abandonnés pour ça. Comme je dis, c'est la drépanocytose, ça peut être l'épilepsie, parce que l'enfant pique une crise d'épilepsie, et puis on va parler de sorcellerie. Mm-hmm. C'est la méconnaissance, c'est le manque de suivi. Donc malheureusement, c'est comme ça, mais il faut dépasser ça.
Ok, mais écoute, on arrive bientôt à la fin de notre épisode, on est sur le dernier...
T'inquiète pas.
Pour revenir sur Espoir, Hope et Likia, qui veut dire espoir dans ces trois langues, hein, qui est le français, l'anglais et l'ingala. Je voulais savoir, les événements à venir. Est-ce qu'il y a des événements à venir que vous prévoyez dans les prochains mois ou années, selon les conditions actuelles, surtout que c'est un peu compliqué.
Exactement. Les conditions actuelles sont assez difficiles. Il est vraiment difficile de se projeter. Par exemple, là, à la fin de l'année 2021, là, nous avions organisé une tombola pour venir en aide aux malades démunis, pour leur permettre de passer des bonnes fêtes, mais aussi pour organiser un repas entre les malades, les bénévoles, les personnes soignantes à Kinshasa, puisque c'est là-bas je travaille. On travaille avec deux associations à Kinshasa pour venir en aide aux malades démunis. Cet événement n'a pas pu avoir lieu pour cause de Covid, donc est reporté dès que le moment nous le permettra. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai pu donc rencontrer Mourou, parce que nous avions été soutenus dans cette action par Baselimbo au travers de son événement Equila Kids, qui a donc mis notre association à l'honneur et qui nous a reversé aussi les recettes de cet événement, soit 1 000 euros, pour soutenir ces différentes actions.
Bravo.
Donc, merci. Nous avons donc pu soutenir les familles individuellement, mais le repas n'a pas encore pu avoir lieu. Donc, c'est à cette occasion que j'ai rencontré donc Mauro, qui a animé un atelier lors de cet événement.
Ça me touche le cœur.
Non, mais bon, il faut en parler. Donc, le thème de cet événement est Equila Kids, donc, qui est organisé pour les enfants de 3 à 17 ans, c'était Ubuntu. Et lors de cet événement, donc Mauro a animé un atelier de podcast auquel a participé mon fils avec des camarades qui étaient présentes, mmh. et ils ont travaillé aussi avec Majoie pour donc imaginer un événement qu'ils ont appelé les Drépadaises. Donc c'est quelque chose que nous aimerions mettre en place.
Ah, Ok.
Voilà, donc quand tu parles d'événements à venir, nous espérons que la situation sera favorable parce qu'ils ont fait vraiment quelque chose de très, très touchant. Ils ont imaginé cet événement et ce sera aussi leur rendre un peu hommage pour mettre en place cet événement pour sensibiliser, récolter aussi des fonds pour des malades. La date n'est pas définie. Mais voilà, c'est un événement que nous aimerions organiser dès que possible pour continuer donc à soutenir nos actions. Sinon, à côté de ça, en termes d'événements, nous faisons beaucoup de live, parce que la situation telle qu'elle est née, nous sommes tous un peu dedans. Et d'une part, nous avions mis en place un format que nous appelons les drépatulques pour donner la parole aux personnes qui souffrent de la drépanocytose, pour donc parler de leur parcours, en fait, de warrior, comme on les appelle, des combattants. Donc le prochain, ce sera en ligne, c'est souvent sur Instagram, donc en février. Sinon, il y a aussi il y aura un live sur la moelle osseuse.
Ouais,
et voilà. Et le 19 juin, comme dit, la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, nous essayons toujours d'organiser un événement. L'année dernière, on avait fait un événement en ligne. C'était sur le dépistage. Cette année, nous allons voir quel format nous allons pouvoir mettre en place, si ça va être en ligne ou en présentiel. Donc, nous verrons. Sinon, entre-temps, nous organisons toujours des actions comme ça pour soutenir nos actions, pour soutenir des malades. Comme l'année dernière, nous nous sommes mobilisés pour venir en aide à un jeune, qui dirait même pas orphelin, parce qu'il a été abandonné par ses parents de par sa pathologie, parce que c'était lourd, ils l'ont abandonné. Donc, il vit à Kinshasa. Il a été recueilli par un orphelinat, donc ça s'appelle Pedro. Donc, pendant 10 ans quand même, il souffrait d'un ulcère de jambe qui est donc une plaie qui ne se refermait pas. Donc pendant 10 ans, il en souffrait. Il nous a contactés et nous sommes mobilisés, toujours grâce aussi à Baseli, à l'équipe qui m'entoure, à Nouna, Rachel, enfin, mes Boost Ladies, je vous fais un coucou, qui nous ont soutenus et nous ont permis de récolter la somme nécessaire pour le soigner. Aujourd'hui, il va mieux, il dort mieux, et donc nous continuons le suivi. Vraiment, il y a des besoins en Afrique. Nous soutenons aussi des malades au Cameroun. Donc, il y a vraiment de besoins pour venir en aide aux malades, parce que là où il y a une forte concentration des malades, c'est là où il y a moins de moyens pour qu'ils se soignent. Donc, nous essayons de leur apporter notre aide dans la mesure du possible. Mais voilà, avec le Covid, c'est un peu... Les actions en présentiel sont un peu suspendues et nous sommes beaucoup plus en ligne. Donc,
En tout cas, bravo. Bravo. Merci. Bravo. Et de quelle manière, enfin, on peut faire un don? On doit vous contacter directement? On peut vous trouver les informations? Parce que je sais qu'il y a un site, il faut le dire, il y a un site.
Oui, effectivement, il y a différentes manières de soutenir notre association. La première, je veux dire, vous pouvez devenir membre de notre association pour la modique somme de 30 euros par an. Vous pouvez devenir membre, et être membre, c'est aussi prendre part à nos actions, à assister à l'Assemblée Générale, apporter vos idées, mais aussi nous donner du soutien, parce que plus on est nombreux, mieux on agit. On peut aussi porter la parole plus haut. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. Nous avons un site internet, donc www.ehe-drepa.org. Vous pouvez avoir des informations, mais c'est sûr, c'est un site aujourd'hui. Bon, nous allons essayer d'y retravailler, mais vous avez quand même un maximum d'informations sur notre site internet. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Nous sommes très actifs sur Instagram, Facebook, Twitter. Nous avons aussi une chaîne YouTube. Donc, nous avons aussi un numéro de téléphone WhatsApp, si c'est vraiment... c'est en cas de besoin. Donc voilà, ce sont ces différents médias, vous pouvez nous trouver. Nous avons aussi une adresse email qui est donc contact@eho-drepa.org si vous souhaitez nous contacter. Après, bien sûr, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est important.
Ouais, il faut, c'est important.
Donner. Non, nous avons, je ne vais pas le cacher, hein, parce que nous sommes une association. Nous avons besoin de fonctionner déjà nous-mêmes en tant qu'association. Ça va faire 5 ans aujourd'hui que nous existons. Donc, c'est une équipe qui est derrière moi, même si bon, on me voit plus, mais c'est une équipe qui est derrière, qui travaille sur tous les fronts. Et comme toute structure, il y a besoin de fonds déjà pour fonctionner. Hein. Donc, les assurances, les téléphones, les machins, tout ça, c'est ça un coût. Déjà, en adhérant, vous nous apportez votre soutien, mais aussi, nous avons besoin de moyens financiers. Ça, c'est impératif pour organiser les différentes actions que nous organisons, quand nous faisons une journée de sensibilisation, quand nous nous déplaçons, parce qu'il n'y a pas que non plus ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Hein. Nous participons aussi à différentes actions, hein, avec d'autres associations, comme j'ai dit, avec l'établissement français du sang. Moi, j'ai même fait une formation aujourd'hui en tant que proche aidant experte à la Sorbonne, pour pouvoir aussi porter la voix sur des instances gouvernementales, ça, pour plaider la cause de la drépanocytose. Tout ça, ben, ce sont des... Nous encourageons aussi au financement de la recherche, hein. Mais vraiment, ce qui nous demande beaucoup de fonds, c'est de venir en aide aux malades qui sont en Afrique. Parce que l'accès aux soins est vraiment très problématique. Très problématique. Donc, nous essayons de soutenir des enfants, des adultes dans leur parcours de soins. Et nous voulons qu'ils arrivent à peu près au même niveau aussi que nous avons, qu'ils puissent avoir des soins réguliers, qu'ils puissent aller voir des médecins, qu'ils puissent aller voir le médecin aussi régulièrement possible, acheter leurs médicaments, faire face aussi aux crises, hein, aux hospitalisations. Tout cela a un véritable coût. Et nous essayons vraiment d'être présents pour eux parce qu'il est arrivé, bon, surtout tout début, que les personnes nous contactent, on leur dise « Ok, mais on n'a pas les moyens. Ouais. » Parce qu'on est une association qui est jeune, qui a besoin d'argent. Donc ça fait un peu mal au cœur d'être saisi et de dire qu'on n'a pas les moyens d'aider une personne par rapport à ses besoins. Quoi. Donc ce qui arrive aussi quand les malades nous contactent, ils sont souvent à un stade avancé parce qu'ils n'ont pas été pris en charge à la naissance. Oui, voilà. Donc, ils arrivent avec des pathologies qui sont quand même assez lourdes. Hein. Il y en a même qui souhaiteraient venir en France, mais on n'a pas ces moyens-là. Donc, ça demande une prise en charge encore plus importante que si on les prend à la naissance, on commence déjà à les aider. Bon, il y a une fille qu'on a commencé à prendre en charge depuis l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, on la suit encore, elle a 6 ans. Donc, on la suit, voilà, ça se passe plutôt bien, elle évolue plutôt bien. Donc, voilà, il y a des besoins qui sont vraiment importants. Bien sûr, on ne va pas guérir tout le monde, on ne va pas soigner tout le monde, mais au moins arriver à répondre aux besoins basiques des malades. Au-delà de ça, nous voulons aussi qu'ils avancent dans la vie. Au-delà de la prise en charge, s'ils ont des besoins, il y en a qui vont à l'école, on essaie aussi de les soutenir, hein, pour prendre en charge leurs frais de scolarité, parce que il n'y a pas que la maladie pour se sentir bien aussi, il y a tout ce qui est périphérique. Avoir une bonne alimentation, ça aide déjà à être en bonne santé. S'enlever d'autres soucis, comme les soucis de scolarité, ça aide aussi à être bien, à éviter des crises. Avoir une activité professionnelle quand on peut s'en sortir, ça aussi, ça aide. Donc, nous essayons aussi de couvrir tous ces champs. Une fois qu'on a dépassé le stade de la prise en charge médicale, apporter aussi un soutien. Nous avons des jeunes qui sont scolarisés aujourd'hui. Nous essayons aussi d'apporter un soutien au niveau scolaire pour leur donner aussi espoir, voilà, que demain, ils vont s'en sortir, qu'ils n'auront plus besoin de nous. Ils auront une activité professionnelle. Nous aidons aussi des parents qui sont démunis. Souvent, ce sont des mamans qui sont seules, avec des papas qui ont déserté, pour soit à cause de maladie ou autre chose. Il y a des mamans qui sont seules. Donc, nous essayons aussi de les aider, parfois, à financer une activité professionnelle pour qu'ils aient au moins de quoi subvenir aux besoins. Cela, ça demande des fonds. Donc, pour nous soutenir, voilà, vous pouvez aller sur notre site Internet ou sur notre page Instagram. Dans la bio, vous aurez toutes les informations si vous souhaitez faire un don. Et vous pouvez aussi participer aux actions lorsque nous lançons une tombola, un système d'action, voilà. C'est ça.
Merci Mujinga, merci Mujinga. On arrive à la fin de cet épisode. Franchement, je voudrais te remercier d'avoir déjà participé au projet Ubuntu Podcast et puis d'avoir donné, faire connaître votre travail. Hein. Franchement, c'est important, la sensibilisation autour de la drépanocytose. Les actions, déjà, on a pu comprendre qu'il faut faire des dons, c'est important. Se dépister aussi, voilà, pour être prêt à affronter la maladie si nécessaire. Et de continuer toujours à s'informer dessus. Et même s'il faut aussi financer, voilà, financer ceux qui font des recherches, des associations qui travaillent pour pouvoir trouver des solutions. Et je pense que c'est plus important à retenir dans ces actions-là, à faire en tant que personne, en tant qu'être humain lambda, comme tout le monde. Voilà. Donc moi, j'invite les gens à se renseigner, à se poser des questions, à se dépister, à avoir des informations sur la drépanocytose, hein, de savoir s'ils sont porteurs ou non, et de soutenir votre association Hope Espoir Helikia et d'autres aussi qui travaillent là-dessus, oui, afin de pouvoir continuer qu'ils puissent continuer à soutenir des personnes à l'étranger. On parle du Congo, on parle du Cameroun, donc et aussi en France. Donc franchement, bravo, félicitations. Merci. En tout cas, ça me touche, hein, ça me touche. J'espère que ça s'entend, en tout cas, à travers cette émission. Donc, n'hésitez pas à suivre Helikia Hope.
Espoir Hope Helikia,
excuse-moi. Et donc, si jamais il y a t'es toujours disponible, si jamais il y a des questions de personnes qui souhaitent te contacter par message sur Instagram, par exemple, pour te poser des questions, ou t'es toujours disponible à ce niveau-là?
Oui, je me rends toujours disponible pour répondre le plus rapidement possible aux questions. Il n'y a pas de problème. Hein. On essaie. On est des bénévoles actifs. Parce que nous travaillons tous, voilà, majoritairement, mais nous essayons quand même de dégager du temps. Oui, s'il y a quelconque question, il ne faut pas hésiter à nous la poser. Comme tu dis, bon, si ce n'est pas notre association, voilà, choisissez celle qui vous intéresse, qui fait, mais soutenez en tout cas, ouais, voilà, cette cause. Et, quand il y a aussi des appels au financement, il faut soutenir. Voilà. Il faut parce que ce que je voudrais dire aussi, c'est que les malades ou les afrodescendants ont souvent le sentiment d'être un peu négligés dans cette maladie, qu'on s'intéresse plus à d'autres causes qu'à la drépanocytose. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'une part, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des médecins, il y a des chercheurs, surtout au sein de l'Institut Imagine. Il y a des personnes qui travaillent pour faire avancer les choses. Et je les remercie pour le travail qu'ils font, parce qu'il y a d'autres thérapies qui sont en cours d'étude. Donc, j'espère vraiment que demain, les malades seront totalement soulagés. Il y a des choses qui se font. Mais n'oublions pas que nous sommes majoritairement concernés. Donc, c'est à nous de nous bouger aussi, de faire en sorte que ça avance. C'est à nous d'en parler. Voilà.
Merci. Je remercie aussi, tiens, Bazeli.
Oui, bien sûr, Bazeli. Oui, bien sûr, Bazeli, c'est vraiment une femme formidable, qui est très engagée, qui a pris aussi cette cause sous son aile et qui nous accompagne. Et je la remercie d'avoir organisé cet événement Equila Kids, que je rappelle, autour des enfants, où elle a mis avec son équipe la drépanocytose à l'honneur. Vraiment, c'était formidable, bien sûr, et qui nous a soutenus financièrement. Donc, il y a Bazeli. Je remercie vraiment grandement toute mon équipe qui est dans l'ombre. Il y a beaucoup, il y a quand même quelques personnes qui travaillent dans l'ombre. Alors, on ne les voit pas, mais c'est tout ça qui fait cette association. Même si c'est moi qui suis plus visible physiquement, mais il y a toutes ces personnes que je remercierai jamais assez pour ce qu'elles font en termes d'action, d'organisation de l'association, ce que j'appelle ma DREP team, à tous les membres qui ont bien voulu m'accompagner quand je me suis lancée, parce que c'était pas simple. En tout cas, ma famille, mes proches qui ont bien voulu m'accompagner dans cette aventure. Je les remercie grandement pour ça. Je remercie aussi tous les bénévoles, dont Bazeli aussi pour ce qu'elle fait, je rappelle encore, et Nouna et Rachel qui sont derrière toute la communication qu'on ne voit pas, mais qui vraiment m'aident énormément. Ils nous aident dans cette association. C'est tous ces bénévoles derrière qui font que ça avance. Et donc, merci donc à toi d'avoir offert ce moment, Moreau. Mais nous, merci. Déjà, je t'ai remercié pour le podcast de l'atelier que tu as animé lors des Killa Kids, qui a fait beaucoup de bien à mon fils. Il a beaucoup aimé. Et je suis sûre qu'il reviendra si tu l'invites.
C'est en préparation.
Il a beaucoup aimé. Les filles aussi. Ouais, les filles aussi ont beaucoup aimé. C'est important de leur consacrer ce moment-là. C'est important ce que vous faites. Et donc, merci de m'avoir consacré ce temps, en fait.
Avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, moi, je suis déjà à ta page, je suis vos activités. Je vais me pencher là-dessus, voir un peu comment ça évolue dans les années à venir. Et si jamais tu souhaites reprendre la parole autour du micro, du Ubuntu podcast, il n'y a aucun souci. Aucun souci, t'es la bienvenue en tout cas.
Merci.
T'es la bienvenue.
Si tu nous invites, on reviendra. Peut-être la prochaine fois, je ne reviendrai pas toute seule.
Hein. Aucun souci. Tu peux ramener ton fils, tu peux ramener.
Avec mon armée. Mais écoute.
Tout ce que tu veux.
Oui, parce qu'il ne faut pas en parler qu'une fois comme ça. C'est ça la pédagogie, il faut souvent répéter. Donc. Si tu nous invites, nous reviendrons pour en parler.
Très bien. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous avez pris des notes, que vous allez faire des recherches, que vous allez vous...
Oui, faites des recherches. Je ne détiens pas la vérité.
vous dépister pour ceux qui n'ont pas encore fait et prendre les mesures nécessaires en cas de SS ou AS. Voilà.
Oui.
On va dire ça comme ça. Donc, du coup, moi, je remercie aussi les radios rapporteuses qui nous a accueillis une nouvelle fois pour le projet Ubuntu Podcast. Donc, je remercie les personnes qui nous assistent pour cette journée dans le TL et non.
Et puis. Qui est d'un grand soutien, il faut le dire.
Oui. Voilà. Donc, merci à vous. Merci à tout le monde. Et puis, le jingle de fin que vous connaissez comme d'habitude. Et bonne journée à tous. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Je vous dis à très bientôt pour le prochain sujet.